La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée aux femmes artistes créatrices au cours du temps. Nous avons amorcé le XXe siècle la dernière fois. Nous sommes à la 14e émission sur les femmes artistes créatrices, ce qui n'est pas rien, et nous allons continuer encore aujourd'hui. Alors, si vous m'avez écouté l'émission précédente, vous vous souviendrez que j'ai abordé la fin du XIXe siècle et le début du XXe avec peintres, sculptrices, françaises et étrangères, comme russes, roumaines, polonaises. Nous avons écouté une composition de la grande musicienne professeure émérite Nadia Boulanger, qui, bien que née fin XIXe siècle, a vécu une bonne partie du XXe siècle, puisqu'elle est décédée en 1979, à un âge avancé, ce qui fait qu'elle a pu former les plus prestigieux musiciens du XXe siècle. Et j'ai aussi investi le Paris des années 20-30 avec le bouillonnement artistique qui régnait grâce à tous ces artistes, des Français bien sûr, mais aussi des étrangers venus des quatre coins du monde pour fuir soit une problématique sociale ou personnelle ou pour simplement intégrer ce centre artistique privilégié qu'était Paris à l'époque. Alors, ils y ont vécu pour la plupart ce qu'on appelle une vie de bohème qui aurait démarré du côté de Montmartre et s'est étendue au quartier Montparnasse, c'est-à-dire qu'ils ont vécu comme des oiseaux sur la branche avec l'incertitude des lendemains et les difficultés liées au manque d'argent ou au manque d'aisance matérielle, mais néanmoins riches de leur enthousiasme, d'une jeunesse prête à croquer la vie par tous les bouts, et surtout tous motivés par l'envie d'exprimer leur créativité en innovant, en trouvant de nouvelles voies, en partageant, etc. Et ce sont bien tous ces créateurs issus de tous horizons, peintres, sculpteurs, écrivains, poètes, musiciens, qui ont révolutionné, transformé le monde de l'art. Et maintenant, la plupart de ces artistes sont connus et réputés dans le monde entier, comme le peintre espagnol Picasso, le peintre italien qui fut aussi sculpteur Amedeo Modigliani, le peintre japonais Fujita, le peintre d'origine russe Marchagall, le peintre français Raoul Dufy, le peintre lituanien Chaim Soutin, le sculpteur d'origine russe Ossip Zadkine, l'écrivain peintre français Max Jacob, l'écrivain français Louis Ferdinand Céline, le musicien français Eric Satie, pour ne citer que ceux-là, et c'est déjà pas mal, tant il y en a, bon, je vous les lance pêle-mêle, il n'est même plus la peine de les présenter tant ils sont connus du grand public. Alors, de cet univers cosmopolite et foisonnant, localisé dans des quartiers bien précis de Paris, ont émergé différents mouvements que nous connaissons maintenant, comme par exemple, je le rappelle, le cubisme grâce à Braque et Picasso, le dadaïsme, puis le surréalisme avec les poètes, écrivains entre autres, Paul Éluard, André Breton, et les peintres comme Max Ernst et John Miró. Alors, sur la lignée de ces mouvements émergents, on est à Paris ou en province, ce sera aussi le fauvisme, grâce notamment aux peintres français Henri Matisse et André Derain, et d'autres encore. Mais est-il vraiment nécessaire que je vous donne des explications sur toutes ces tendances, ces mouvements qui naissent à l'aube du XXe siècle, que le monde de l'art et de la culture, via les institutions, ses musées, s'est parfaitement bien amené à notre connaissance, sans compter que j'ai pris le temps d'aborder ces sujets dans la Voix des Arts, notamment en expliquant les états d'esprit qui ont motivé les pratiques des artistes, mais vous êtes au courant si vous m'avez écouté. Alors, ces artistes catalogués comme faisant partie pour la plupart de l'avant-garde artistique, c'est-à-dire ceux qui apportent la nouveauté, la modernité, prennent des risques et cherchent à rompre avec les académismes. Alors, ils sont les précurseurs de ces formes artistiques émergentes et qui nourriront les générations suivantes. En tout cas, et d'une manière générale et globale, ces artistes incarnent ce que nous pouvons nommer les artistes modernes. Mais où sont les femmes ? Comme le demandait en chanson Patrick Jouvet dans les années 70-80, où sont les femmes, si vous vous souvenez. Bon, que deviennent les créatrices, celles qui s'expriment dans une activité artistique avec plus ou moins de talent, en tout cas de personnalité, celles qui s'investissent dans un mouvement artistique ou innovent également à leur manière, car à part les muses, les modèles, les compagnes, les amantes de ces messieurs, force est de constater que la gente féminine est en minorité. Alors pourquoi ? Est-ce à cause de la réputation marginale, parfois sulfureuse, de l'artiste au métier suspect, considéré comme inutile en ces débuts de siècle, qui, dans l'esprit du temps, ne cadrerait pas avec ce qui est attendu comme convenable de la part de jeunes filles de surcroît postulant en art. Peut-être. Pourtant, en ce début de XXe siècle, les écoles leur sont ouvertes, où elles peuvent par exemple étudier le nu sans choquer la galerie, et les concours leur sont accessibles, même si toujours le masculin prédomine ainsi que sa valorisation. Et dans ce contexte, justement, il semblerait que les femmes choisissent des écoles privées ou bien les arts décoratifs, plus conforme à ce que l'on attend de la féminité. Et d'autre part, et quand même, dans la mentalité dominante de ce début de siècle, la femme est rarement considérée comme une créatrice, une innovatrice. Cependant, elles sont là pour certaines. Et nous allons voir, déjà parmi les modèles de ces messieurs, où il semblerait qu'il y ait un frémissement significatif. Or, parmi justement ces modèles, certaines trouveront une voie d'expression artistique, comme par exemple, et je vous en ai parlé précédemment, la parisienne Suzanne Valadon, qui, elle, est de plein pied dans le Montmartre de la fin du 19e, début du 20e, et qui réussira à émerger et par la suite à bien vivre de son art. Alors, il ne faut pas oublier qu'elle est également la mère du peintre Maurice Utriot, qui lui aussi a gravité dans le Montmartre et le Montparnasse de ses époques avec les autres artistes. Alors, ce peintre talentueux rencontrait quelques problèmes avec la boisson, ce qu'il expédiait de temps en temps en cure en hôpital psychiatrique. Ceci dit, il réussira à obtenir du succès et des bénéfices de sa vie d'artiste, en pièces sonnantes et trébuchantes notamment, et il s'installera ensuite au Vésiné, dans la banlieue plutôt privilégiée de Paris, avec sa femme, une comédienne de théâtre nommée Lucie Valor, pseudonyme de Lucie Vaux, qui apparemment s'adonnera elle aussi à la peinture. Or, celle-ci avait fait la connaissance du trio avec son second mari en fréquentant Montmartre, lieu apparemment de ses premières amours, leur logement se situant, lui, dans le 16e arrondissement. Bon, c'est pas tout à fait la même ambiance, ni le même public de ce côté de Paris. Alors, le mari décédé, elle convolera en troisième et juste noce avec Utriot, qu'elle remettra d'équerre, pour ainsi dire, en contrôlant ses boissons et en l'incitant au travail. Bon, ce qui en soi n'est pas si mal, au contraire, mais il semblerait qu'elle ait voulu également en faire ce qu'il n'était pas. Bon, cela est en effet plus discutable. En tout cas, pour ces raisons, elle ne fut pas très bien vue de la communauté artistique, dont les reproches étaient d'embourgeoiser Utriot, de l'aseptiser, le lénifier peut-être. Enfin bref, le conformer à sa guise, avec le risque potentiel d'affadir sa production. C'est quand même ce qui est grave. Alors elle, il est vrai qu'elle s'initiera à la peinture avec son peintre de mari, et en cela pourquoi pas, mais elle se positionnera de telle manière à ses côtés que l'imprimeur lithographe Fernand Mouriot n'aurait pu s'empêcher de dire « Sa peinture était impossible, mais si vous désiriez acheter un Utriot, il fallait que vous achetiez aussi un Lucie Valor ». Alors en effet, j'ai regardé sa peinture, hein, qui est simple, naïve, mais bon, évidemment, elle n'offre pas de perspective très intéressante en matière artistique. Ceci dit, ben, ce fut plutôt positif de sa part, après le décès du trio, de créer une fondation en son hommage. Enfin voilà pour cette dame, hein, qui a partagé la vie du trio avec quelques velléités personnelles d'artistes peintres. Alors nous allons laisser les plasticiennes, les peintres, pour nous tourner vers les musiciennes, le temps d'une pause musicale. Après Nadia Boulanger écouter l'émission précédente, je vous propose d'écouter ici Lily Boulanger, la sœur de Nadia, qui elle était surtout compositrice et qui est décédée prématurément à l'âge de 25 ans. Alors devant elle s'ouvrait une carrière prometteuse, car en effet, elle deviendra la première femme à être récompensée en musique par le concours du prestigieux Prix de Rome à l'âge de 19 ans. Place donc maintenant à Lily Boulanger pour écouter l'hymne au soleil. après cet hymne qui nous a élevés vers le soleil, redescendons sur Paris, Montmartre, Montparnasse, au milieu de tous ces artistes pour y chercher la créatrice. Il semblerait que ce soit une mission plutôt difficile, hein. J'ai évoqué les modèles, amis, compagnes, épouses, etc. Alors parmi les modèles qui ont choisi un moment de tenir le pinceau, je mentionnerai la fameuse Kiki de Montparnasse, née Alice Prin, dont le surnom aurait été trouvé, mais rien n'est sûr, par le peintre japonais Fujita, à cause de ses problèmes de prononciation, à moins que ce ne fût le peintre polonais Maurice Menczynski, Alice étant la version grecque d'Aliki, et d'Aliki à Kiki, il n'y a qu'un pas. Alors Kiki est une jeune femme extravertie, à la cuisse plutôt légère, il semblerait, pour reprendre une expression usitée autrefois, mais parfaitement explicite, en fait une bonne nature, et qui semblait plutôt à l'aise devant l'objectif du photographe, celui notamment du peintre-photographe surréaliste Man Ray, où elle apparaît parfois dévêtue dans des poses suggestives. Il suffit de le vérifier sur les photos pour s'en convaincre. Alors elle était d'un milieu très modeste et très jeune, a dû chercher les moyens de vivre, voire survivre, et c'est dans ce milieu d'artiste qu'elle s'est épanouie, on va dire comme une fleur au soleil, au milieu des fêtes et d'excentriques de tout acabit, pour lesquelles elle est devenue en quelque sorte la petite reine de Montparnasse. Elle s'est essayée à la peinture, soutenue dans ce sens par ses camarades artistes, mais d'après ce que j'ai compris, il semblerait qu'elle ait eu plus de dispositions pour être une inspiratrice qu'une véritable artiste. Alors une autre avec un peu les mêmes antécédents que Kiki se nommait Fernande Barré, sauf qu'elle débute à Paris dans la vie comme prostituée à 17 ans et pour ne pas mourir de faim. Et en effet, elle a quitté sa Picardie natale et sa famille pour venir à Paris, où elle finira quand même par devenir modèle des peintres montmartrois et de Montparnasse, et notamment de Modigliani et de Soutine. Et c'est là que le peintre japonais Fujita en tombera amoureux et il l'épousera. Alors au nombre de leurs amis, Fernande se liera davantage à Jeanne Hébuterne, qui, affectée par le décès du peintre Amedeo Modigliani, son compagnon et père de son futur enfant, et de plus rejetée par sa famille, décrite comme conventionnelle et étriquée, se suicidera à 22 ans en se défenestrant 2 jours après le décès de Modigliani. Alors, c'est en effet une tragique histoire, hein. Même son après-mort est pathétique, car d'après ce que j'ai lu de sources différentes, personne n'aurait voulu d'elle, ni ne s'en est occupé ou préoccupé, et son corps trouvé par un ouvrier aurait été trimballé. Alors j'avais lu à l'époque, et je ne sais plus où, qu'il aurait été trimballé dans une brouette, partant de chez ses parents qui n'en voulaient pas, pour échouer dans la rue de la Grande Chaumière, où il est resté une partie de la journée. Alors est-ce vrai? Ça je peux pas le dire, je sais pas. En tout cas, la vérité avérée, c'est qu'elle s'est jetée du haut d'un bâtiment très peu de temps après le décès de Modigliani. Alors, ce que l'on sait moins de Jeanne, c'est qu'elle aussi était peintre. Elle avait pris elle aussi des cours à l'Académie Calarossi. Elle avait d'ailleurs un frère nommé André Hébuterne, lui-même peintre paysagiste. Et il semblerait que Modigliani croyait en son talent prometteur, voire complémentaire au sien, mais qui évidemment n'a pu s'épanouir vu les circonstances. Alors j'ai recherché ses peintures et en effet, à mon avis, elle a une patte. Ce sont surtout des portraits. J'en relève un de Modigliani dans une posture un peu alanguie. Il semble rêveur avec un beau visage apaisé. Revenons à la relation de Fujita avec Fernande Barré. Alors l'union sera un tantinet orageuse, hein, car malgré un libertinage réciproque, celui-ci finira par trouver ses limites. En tout cas, il est dit que Fujita aura du mal à avaler le fait que Fernande file le parfait amour avec son cousin, le peintre Koyanagi. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Enfin, toute cette vie un peu décousue n'empêchera pas non plus Fernande de s'intéresser à la peinture, de manifester des dispositions qui seront encouragées par ses amis masculins peintres, qui la pousseront à étudier la peinture et l'histoire de l'art. Alors voilà pour les modèles, plus les personnalités citées l'émission précédente comme Marevna, Anton Priner, Moula Mutter, Shana Orloff ou même l'écrivaine mécène Gertrude Stein, pour ne citer qu'elle. Alors parmi ces femmes créatrices apparaît une autre personnalité qui réussira elle aussi à se démarquer avec ses qualités personnelles de peintre et à vivre de son art. Et il s'agit de la peintre française Marie Laurencin, née en 1883. Or, je pense que son nom est déjà parvenu jusqu'à vos oreilles, même sans avoir fait l'effort de l'étendre pour capter l'information, du moins je le suppose. Or, que sait-on de Marie Laurencin? Eh bien, c'est quelqu'un qui se crée déjà toute jeune, parce qu'elle compose de la poésie. Elle s'inscrira à l'école de Sèvres près de Paris pour devenir peintre en porcelaine et en parallèle, elle suivra des cours de dessin puis de peinture à l'Académie Imbert de Paris. Elle gravitera dans l'environnement proche de Pablo Picasso de par son intérêt au cubisme, mais s'en détachera pour suivre son propre chemin avec une esthétique qui lui est personnelle, à tonalité, on va dire, très féminine. Alors elle fréquente donc ce milieu d'artistes plus ou moins bohèmes. Elle se liera intimement au poète Guillaume Apollinaire pour ensuite épouser un étudiant en art allemand, partira ensuite avec lui en Espagne pour revenir divorcée en France où elle se consacrera à ce moment pleinement à son art. Alors elle obtiendra de beaux succès en peinture et aussi dans le milieu théâtral, notamment grâce à la conception de costumes et de décors de scène. Elle réalisera entre autres des dessins de papier muraux et elle travaillera également comme illustratrice. Alors pour ces tableaux, si vous réussissez à vous les représenter, ils sont bien reconnaissables, bien typés dans son style très féminin. Ce sont des aplats, des tons clairs pour des personnages, surtout féminins, dont les visages très pâles apparaissent avec des traits stylisés pour signifier les yeux ou la bouche. Voilà pour Marie Laurencin qui a réussi à se faire une place, bon je serais tentée de dire au soleil, car elle réussira à atteindre la notoriété en France, et notamment en touchant le tout Paris à la mode, et également à l'étranger, ce qui lui permettra de vivre très confortablement jusqu'à la fin de sa vie. Alors des femmes apparaissent dans ce milieu artistique du Paris du début du XXe siècle qui seraient plutôt des créatrices dans leur façon personnelle de vivre et d'exister. Alors celles à qui je pense déjà affichent librement leur homosexualité. Alors elles se sont installées l'une en face de l'autre avec l'objectif de créer chacune sa librairie, ce qu'elles ont fait pour ensuite publier, diffuser des écrivains maintenant célèbres comme Paul Valéry, André Gide et bien d'autres encore français et étrangers. Et pour s'investir et participer davantage à la vie culturelle et artistique de leur quartier, elles ont organisé des soirées littéraires, des causeries débats, des récitals de poésie, enfin, etc. Or, l'une se nomme Sylvia Beach, elle est américaine, et l'autre est la française Adrienne Monnier. Donc, vous voyez que sans être des artistes à proprement parler, ce sont quand même des créatrices, notamment en événements, et elles tiennent un rôle non négligeable pour permettre aux écrivains de diffuser et de se faire connaître. Alors à propos de littérature et d'écriture, il est temps de mentionner la franco-cubaine Anaïs Nin, née en 1903 à Neuilly, et fille d'une danseuse d'origine danoise et d'un musicien espagnol qui les abandonnera. Alors elle épousera un directeur de banque basé à Paris, ce qui fait qu'elle sera présente dans ce Paris du début du XXe siècle. C'est une intellectuelle, anticonformiste, libertaire, voire amorale, peut-être mythomane, qui entretiendra des rapports complexes, parfois profonds avec ses amis masculins, artistes, écrivains, également psychanalystes. Elle rencontrera sur son chemin, entre autres, les psychanalystes Otto Rank et René Allende, et les écrivains artistes Antonin Artaud, André Breton, Jean Cocteau, pour ne citer qu'eux. Alors, son mariage ne l'empêchera pas apparemment d'écorner le contrat, et elle vivra notamment une relation amoureuse passionnelle, autant qu'artistique et intellectuelle, avec l'écrivain américain Henry Miller. Elle est surtout célèbre par ses journaux intimes, étalés sur quelques décennies et édités après sa mort. Elle écrira, outre ses mémoires, des romans, notamment érotiques, une nouveauté pour une femme, à marquer d'une pierre blanche, car c'est en effet l'une des premières femmes à écrire ce type d'ouvrage. Et parmi ceux-là, Vénus Erotica ou Les Petits Oiseaux. Alors elle disait d'elle, « Je ne suis pas un écrivain ni une artiste, je suis une diariste, le journal est mon œuvre principale post-mortem. » Bon, au lecteur de juger, pour ceux qui lisent bien évidemment. Alors nous terminons l'émission sur Anaïs Nin. Rendez-vous les prochaines fois avec d'autres personnalités féminines. Merci de votre écoute. C'était Christine Darboux de La Voix des Arts sur notre radio locale Radio Libre en Périgord 102.3, émission à écouter également sur site internet Radio Libre étant au pluriel. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.